Bonjour.
Et bonjour tout le monde.
Je vois que tu t'amuses bien.
Ouais, toujours.
Alors on démarre en fait cette émission en raccrochant les wagons par rapport à la dernière.
Ouais, j'espère que tout le monde avait bien suivi. Parce
non,
que...
alors donc il va falloir quand même qu'il y ait une toute petite présentation pour remise à plat de ce que l'on a fait la dernière fois. On a commencé à parler du travail et de l'histoire du travail quelque part. Hein. Et donc on a commencé à en parler à partir de ce moment clé dans notre histoire, le moment de la Renaissance, à la fin du Moyen-Âge. Et tout ce qui se passe qui est complètement fou, parce qu'il y a vraiment des révolutions là qui se passent.
Ouais, c'est une période de l'histoire où il y a eu énormément de changements à plusieurs moments, plusieurs endroits, plusieurs niveaux dans la société. Il y a des changements qui viennent de l'extérieur contre lesquels on peut rien, des changements qui viennent de l'intérieur de la société. Et en fait, c'est à partir de ce moment-là, qui est daté entre 1530 et 1540 en gros, que la société va commencer à se réorganiser... en tout cas, démarrer un chantier de réorganisation qui va amener tout droit jusqu'à 1789, la Révolution française et tout ça.
Alors, donc, pour poser un petit peu le cadre, hein, on avait parlé un petit peu de la Boétie la dernière fois. Donc, la Boétie, comme on rappelle, entre 16 et 18 ans, la Boétie écrit, il est très précoce, il écrit un discours sur la servitude volontaire. Et dans ce discours sur la servitude volontaire, en fait, justement, il est un petit peu dans le sujet dont on va parler, c'est-à-dire pourquoi on travaille, pourquoi à un moment on accepte d'être sous les ordres de quelqu'un, etc. Parallèlement à ça, dans cette époque-là, en 1500, hein, on vient de découvrir l'Amérique, on vient de découvrir l'imprimerie, donc ce sont des choses qui vont avoir un impact énorme sur la société, évidemment, puisque on peut lire les écrits de certains d'une façon beaucoup plus simple qu'avant. On peut, en plus, là, on peut fantasmer sur tout ce qu'on va trouver dans ce nouveau pays qu'on vient de découvrir. Il va y avoir donc évidemment une grosse évolution philosophique aussi. 100 ans plus tard, Spinoza va venir nous expliquer que peut-être que Dieu n'est pas ce que l'on a cru avant. Il y a une révolution justement au niveau de la religion, c'est-à-dire que là, à ce moment-là, en 1517, je crois, Luther arrive, on a une remise en question de la religion chrétienne, la religion protestante commence, enfin voilà, il y a plein de gens qui sont en plein questionnement sur, sur cette société.
Et la dernière fois, justement, on parlait de l'importance de la religion dans cette société féodale là, du XVIe siècle, de début 1500, puisque c'est à peu près là-dedans qu'on est, hein, vers 1530 et tout, au centre de la société, il y a la religion comme, on va dire, grille de lecture du réel. C'est-à-dire que tout le réel, toute la société, comment elle est organisée, le rapport au travail, le rapport aux richesses, le rapport au pouvoir, les places qu'on a, etc., c'est tout organisé dans la société féodale autour de la religion, et c'est la religion qui sert d'explication à tout. Et c'est pour ça que la dernière fois, on avait commencé à discuter un peu de qu'est-ce que c'est les pauvres dans la religion catholique de l'époque, donc de cette société féodale, mais qui va petit à petit commencer à se transformer, à muter. Et le pauvre, à ce moment-là, dans la société de l'époque, est vu de manière très très positive. C'était ce qu'on appelait l'expression complète, c'est les pauvres de Jésus-Christ. Jésus avait fait, vivait comme les pauvres avec les pauvres et avait dit explicitement que pour les pauvres, le royaume des cieux leur était grand ouvert et que par contre, il serait plus difficile pour un riche de rentrer au paradis que pour un chameau de passer par le trou d'une aiguille. Donc, à cette époque-là, les riches, c'est admis et c'est clair pour tout le monde que les riches, c'est compliqué d'aller au paradis et que s'ils veulent aller au paradis, leur seule option finalement, c'est de venir en aide aux pauvres, puisque le pauvre est le personnage secondaire dans le grand film du riche protagoniste. Il est le personnage secondaire qui détient les clés du paradis pour le grand riche.
Est-ce que Bernard Arnault nous écoute là?
Oui, bah je pense que, en tout cas, Bolloré qui se dit très chrétien doit être très sensible à tous ces arguments, ça c'est sûr.
Donc voilà, c'est pas la fin de la société féodale puisqu'elle va elle va mettre encore un certain temps à être là, à finir.
Mais c'est le début de la fin.
D'exister.
En fait, c'est le début, le moment où il va y avoir des mutations. C'est le moment où il va y avoir le début des mutations qui vont conduire finalement à son effondrement inéluctable, mais pour plein de raisons, et ça on pourra en discuter.
Et donc, entre autres, il y a la bourgeoisie qui devient de plus en plus présente, c'est-à-dire qu'on n'est plus du tout dans cette société où le seigneur seulement se retrouvait au poste de pouvoir, le bourgeois, petit à petit, et le marchand.
Voilà, le bourgeois, en fait, à l'époque, c'est souvent le marchand, hein.
Oui.
Les artisans, ils sont là, ils font leur artisanat, etc. On a des artisans travailleurs, des gens qui travaillent. D'ailleurs, souvent, il y a des gens qui sont mi-fermiers, mi-artisans. Je rappelle, on est dans une économie de subsistance où les gens subviennent à leurs propres besoins, produisent ce qu'ils consomment et consomment ce qu'ils produisent, en grande partie. L'argent a très peu d'importance dans ce système, pas du tout autant que nous aujourd'hui. À l'époque, on a un petit peu d'argent pour pouvoir acheter les choses dont on a vraiment besoin et qu'on ne peut pas se procurer ailleurs. Sinon, l'immense majorité de ce qu'on consomme, c'est des choses qu'on produit nous-mêmes ou qu'on produit avec les gens qui sont autour de nous, dans des systèmes très communautaires, très communistes, parfois on peut dire aussi, même si ça n'existe pas encore, le communisme, ou alors peut-être que ça existe sous une autre forme. Mais voilà, on est dans des systèmes comme ça. Le marchand, lui, et le bourgeois, donc, ce qui va devenir vraiment la classe bourgeoise, lui, tout son truc, c'est d'avoir des marchandises à vendre et de contrôler les productions. C'est-à-dire de contrôler les matières premières, et puis éventuellement de contrôler le processus de travail et de contrôler ce qui sort à la sortie avec une valeur ajoutée, ce sur quoi lui, après, derrière, en vendant, il peut faire son profit. Et cette classe-là de bourgeois va prendre de plus en plus d'importance. Et à l'époque où on est là maintenant, là, vers 1540, c'est le début de l'émergence vraiment de cette partie du tiers-État, parce que je le rappelle, ils font plutôt partie du tiers-État, mais ils prennent de plus en plus d'importance et par leur capacités économiques vont petit à petit être un levier sur la société.
Alors donc là, on est en train, en fait, hein, d'essayer de comprendre comment le travail a changé, en fait,
Le
comment
rapport au travail.
le rapport au travail,
Ouais.
mais aussi comment, en fait, petit à petit, les gens ont été habitués ou obligés de rentrer dans une autre façon de se projeter dans la vie, en fait.
Alors pour comprendre ce qui se passe à ce moment-là, il faut un peu planter le décor, tu vois. Le décor, c'est que tu as la grande majorité de l'or en Europe qui fuit depuis la route de la soie et compagnie, qui fuit vers l'Asie dans le commerce, en fait. Donc il y a toute une partie de la monnaie européenne, de l'or européen, qui part en étant utilisé comme monnaie pour les échanges avec l'Asie. Dans le même temps, ce qui était un influx constant d'or qui venait de l'Empire du Mali est en train de se tarir petit à
Donc le
petit.
Mali était puissance
Oui.
aurifère.
Oui, bien sûr, bien sûr. Mais là, du coup, ils sont petit à petit l'Empire périclite, et du coup, il y a moins d'or qui rentre par ce biais-là. Les mines d'or et d'argent en Europe commencent à être taries, et on n'arrive plus non plus à en sortir bien beaucoup plus. Par contre, on vient de trouver beaucoup d'or
Enfin, on
en
suppose.
Amérique. On est
Ouais.
en train de trouver beaucoup d'or en Amérique et de ramener beaucoup d'or de l'Amérique. Et donc, du coup, on a un influx d'or qui arrive d'un coup, dont les marchands avaient bien besoin pour pouvoir développer leur business. Et ça va créer beaucoup d'inflation, cette arrivée massive d'or d'un coup depuis l'Amérique. Dans le même temps, on a des épidémies de peste. On a, sur l'espace de 50 ans, 11 guerres entre la France et l'Italie. Donc on a, en gros, un pays paysan qui est dévasté par les guerres, par les épidémies, par de l'inflation. Donc on a une explosion du nombre de pauvres à ce moment-là. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup plus de pauvres
Oui.
qu'avant. Et ça va se voir parce qu'ils vont débarquer en ville. On a le
Oui, il
début
y a
aussi des
une
propriétés.
migration vers la ville. C'est
Oui, oui.
aussi pour ça que, enfin, bon,
C'est le
le
début.
pauvre, voilà,
Ouais.
le pauvre, tant qu'il avait un petit lopin de terre, il arrivait peut-être un tout petit peu à
Voilà.
s'en sortir.
Et oui, et c'est le début aussi de ce qui va devenir la propriété privée. Il commence à
Ouais.
y avoir des acquisitions de propriétés, des acquisitions de terrain, qui commencent à changer la donne pour plein de gens qui vivaient comme ça jusqu'à maintenant, et qui se retrouvent à aller en ville, ou à rejoindre les gros bourgs, etc. Et donc la pauvreté se voit de plus en plus.
Alors c'est là que tu m'expliques tout à l'heure, quand on était en train de présenter, que de préparer, que il y a le bon pauvre et puis il y a le mauvais pauvre.
Ben, c'est ça qui va se passer, c'est-à-dire que pour que les marchands puissent augmenter leur production, augmenter leur pouvoir sur la société, etc., tirer la meilleure part qu'ils peuvent du feu, en gros, eux, leur but, c'est de mettre tout le monde au travail et de développer les manufactures, de développer les artisanats, comme je disais, en contrôlant l'entrée et la sortie. Comme ça, c'est eux qui contrôlent les prix de A à Z. Et c'est exactement ce qui se passe à ce moment-là. Et en gros, donc, le statut du pauvre va devoir changer à cause de cette nécessité-là de la bourgeoisie de devoir changer leurs conditions matérielles d'existence, pour leurs conditions matérielles d'existence, d'obliger la société à changer, ça va devoir changer la loi, quelque part. Voire même la façon qu'on a de voir les pauvres. Parce que jusqu'à maintenant, par la grille de lecture religieuse dont je parlais tout à l'heure, les pauvres sont extrêmement positifs. Les pauvres sont le chemin du paradis. Et là, le problème, c'est qu'il y a de plus en plus de pauvres. Et que tous ces gens-là, normalement, il faut leur faire l'aumône pour pouvoir accéder au paradis. Sauf que ça fait beaucoup de pauvres, ça fait beaucoup d'aumônes, et qu'à un moment donné, il va falloir arriver à classer tout ce monde-là. Et ils vont faire un espèce de tour de magie incroyable qui va mettre le travail au centre de toutes les considérations vis-à-vis des pauvres. Autrement dit, à partir de ce moment-là, on a des bons pauvres qui sont soit les pauvres qui aimeraient travailler mais ne peuvent pas, parce que, par exemple, ils ont un handicap, etc., ou alors le pauvre qui souffre de chômage temporaire et qui veut très vite retourner au travail. Alors lui, bon, c'est un bon pauvre. Lui, il va avoir la possibilité de rejoindre les aumôneries générales qui se créent à ce
Alors
moment-là.
donc tu nous parles de l'aumônerie générale de Lyon, par exemple, qui
Ouais.
se crée en 1536,
36 ou par là,
hein,
ouais, c'est
par là.
ça.
Et donc là, dans ces aumôneries, il y a des commissions pour définir qui est validé,
Voilà.
en fait.
L'idée, c'est que tu vas plus avoir, genre, les riches qui vont donner l'aumône de manière individuelle. L'aumône et la charité vont être gérées de manière collective. On va créer une aumônerie générale à Lyon. Les marchands, y contribuent largement. Il va y avoir une taxe sur tous les habitants lyonnais qui va servir à mettre cet argent dans l'aumônerie pour donner l'aumône aux pauvres. Mais
C'est la
attention,
sécurité sociale.
attention, c'est pas n'importe quel pauvre. Seulement ceux qui sont validés comme étant bons pauvres et qui
Et
sont dans le registre.
alors les mauvais pauvres, c'est quoi?
Alors, les mauvais pauvres, c'est tout le truc. Il va falloir passer en commission. Quand tu es pauvre, il va falloir que tu passes devant une commission qui regarde si oui ou non tu es un bon pauvre. Si tu es effectivement un bon pauvre qui aurait voulu travailler mais qui ne peut pas, eh ben à ce moment-là, tu es inscrit dans le registre, on te donne un très beau badge qu'il va falloir coudre sur tes vêtements.
Pas un badge jaune,
Non,
quoi.
pas une étoile jaune, mais pas
Non.
loin. Ça peut
Ouais.
être une croix comme ci, ou un
Ouais.
M comme ça, ou etc.
D'accord.
Et en gros, ce badge-là, il va falloir le porter sur toi en permanence, partout où tu vas, pour pouvoir bien dire à tout le monde que tu es un pauvre de l'aumônerie, et que tu as le droit à l'aumône, que tu as le droit de mendier, mais seulement aux endroits où il faut. Et surtout, surtout, tu ne dois jamais faire de prostitution, jamais faire de business un peu douteux, jamais faire de cambriolage, jamais faire tout ça,
Bah oui,
parce
puisque
que...
t'es un bon pauvre.
Eh oui. Et donc, moralement, on va commencer à faire un distinguo moral entre les pauvres
C'est ça.
et dire que le bon pauvre, c'est vraiment le gentil petit qui peut pas travailler, pauvre de lui, et tous les autres, c'est des méchants pauvres.
Et alors donc tu me parlais de chasse-coquins.
Oui, alors il y a les chasse-coquins, ça c'est peut-être l'ancêtre de la police municipale ou nationale, et puis la
Ils
maréchaussée,
étaient armés?
l'ancêtre, voilà, l'ancêtre de la gendarmerie, c'est des pauvres à qui on va donner des bâtons pour aller taper sur la tête des mauvais pauvres.
D'accord.
Donc les bons pauvres, ils ont le droit évidemment de venir à l'aumône chercher leur dû, maigre dû, mais ils viennent le chercher, ils sont contents, ils ont le droit. Par contre, c'est encadré dans un cadre très très strict. Les mauvais pauvres, on va leur faire la chasse, d'où les chasse-coquins. On va les chercher, on va les taper et on va les mettre carrément même soit en prison, soit même dans des structures de travail forcé.
Ouais, travail forcé en pénitencier quasiment, hein.
Ouais, et puis
Et
tout ça, il y a aussi toute une marmaille derrière. Il y a des enfants qui sont là, soit les enfants des rues, soit les enfants de ceux qui vont être arrêtés, etc. Eux, il va falloir s'en occuper. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, on va faire des orphelinats avec des quasiment comme des centres de formation pour les faire bosser, pour leur apprendre un métier. Ça peut partir d'un très bon sentiment avec des riches authentiquement charitables qui voudraient voir ces enfants s'en sortir et qui sont très contents quand ils y parviennent, mais on a aussi des tonnes d'exemples avec des dizaines et des dizaines d'enfants qui meurent dans des conditions horribles au travail parce que on les a mis à 12 ans dans l'usine de, enfin c'est pas encore des usines mais c'est des petites manufactures de tel ou tel riche qui en profite pour avoir du travail gratuit et
Ouais.
cet enfant va
Alors,
mourir avant ses 17 ans quoi.
tu nous expliquais entre autres qu'il pouvait y avoir, ça pouvait être les ancêtres de sociétés du genre Lions Club ou etc.
Oui, voilà,
Hein.
le Lions Club, le Rotary, tous ces trucs-là. En fait, c'est des structures qui se définissent à ce moment-là et dont on voit encore aujourd'hui, mais la copie conforme. C'est-à-dire qu'en gros, le principe, c'est de se dire, collectivement, on va faire un pot. Ce pot, on va le donner à quelqu'un qui le mérite. Tu vois? C'est pas à n'importe qui, c'est pas à n'importe qui en a besoin, c'est à quelqu'un qui le mérite. Il le mérite par sa moralité. Est-ce que c'est un pauvre qui aurait pu et aurait voulu s'en sortir, auquel cas il y a droit? Mais si c'est un mauvais pauvre, tu sais que c'est à cette époque-là que ça vient l'expression la cour des miracles.
Ouais.
La cour des miracles, c'est à Paris, l'endroit où la journée on fait l'aumône et où tout le monde est infirme, et où le soir venu, les infirmes se relèvent, se mettent à danser, etc., etc. C'est pour ça la cour des miracles.
C'est vachement efficace.
Bah ouais, non, mais c'est ce qu'il faut voir, c'est que donc ça vient de cette époque-là en fait. Ouais. C'est à cette époque-là qu'on va commencer à avoir des gens qui vont faire semblant d'avoir des handicaps pour pouvoir avoir quelque chose, donc, parce qu'il faut être un bon pauvre pour avoir quelque chose.
C'est des salauds, c'est comme ceux qui volent le RSA, quoi.
Exactement. En fait, c'est là que commence cette rhétorique qu'on a encore aujourd'hui, à savoir qu'il y a une partie des pauvres qui sont des bons pauvres, les pauvres pauvres. Oh là là, oh là là. Et on a toute une autre partie des pauvres qui sont les parasites, les assistés, les profiteurs, ceux qui vont faire un micmac pour finalement, au fond, te cambrioler, quoi.
Il y a ceux qui veulent bien travailler et les autres.
Voilà, il y a les bons pauvres et les mauvais pauvres. Il y a ceux qui vont essayer de se battre pour s'en sortir ou qui vraiment peuvent pas, à qui on va donner quelque chose. Et puis, il y a tous les autres qui sont des méchants et bien sûr, le bouc émissaire de tout le monde la société. Car si tout va mal, c'est évidemment à cause de ces méchants pauvres, parasites, assistés, voleurs.
Bien sûr, il va y avoir ces gestions collectives. Ça va amener dans notre société le secours populaire, la CAF, etc. Mais est-ce qu'on peut passer d'un rang de mauvais pauvres à un rang de pauvres validés?
Pas vraiment, non. Pas vraiment.
Mais
non,
peut-être par contre, par les orphelinats, on peut prendre la marmaille
ces
affreux.
La marmaille, elle a rien fait. Ouais. Donc si ils travaillent comme il faut, qu'ils sont bien gentils et qu'ils se comportent
dans
comme il faut, à la fin, c'est pas seulement qu'ils vont devenir potentiellement un bon pauvre, c'est que c'est surtout qu'ils vont peut-être devenir un travailleur. Et s'ils deviennent un travailleur, ça fait de la main-d'œuvre tout de suite pour tous les patrons là qui en ont besoin. Et donc, en fait, le but, c'est pas seulement de réhabiliter, entre guillemets, les mauvais pauvres vers des bons pauvres. C'est de réhabiliter les pauvres, les mendiants et les vagabonds, chose qui est interdite à l'époque et un peu tout placé dans le même sac. Hein. Il faut les convertir en travailleurs, en membres productifs de la société, de ma société.
D'accord. Donc, en fait, on est passé de ces sociétés féodales, et ça va mettre très longtemps, où il y avait des corvées, hein, cette espèce de pauvre utilisable, corvéable à merci. Où est passé le projet de société dans tout ça? Parce que, en fait, par exemple, tu parlais du droit à la paresse, hein, on va parler peut-être un petit peu de ça, mais qu'est-ce qui se passe? Quel est le projet de société? Est-ce que le projet de société, c'est qu'on travaille toujours plus? Parce que là, petit à petit, on travaille de plus en plus.
Je comprends très bien ta question, mais le problème, c'est que la société, elle évolue rarement, ça arrive, hein, mais elle évolue rarement sur cette base-là de ce que tu es en train de dire, c'est-à-dire sur cette question qui se pose. C'est très rare que les gens qui font évoluer la société se réveillent le matin et disent « Quel est le projet ?» Quel est le placement philosophique et je construis ma société par rapport à ce placement philosophique. En fait, c'est souvent le contraire qui se passe. C'est on est confronté à des réalités matérielles et ces réalités matérielles et le changement de l'équilibre des forces en puissance fait qu'on va se comporter comme ci ou comme ça. Et ensuite, on va le justifier par le monde des idées. De la même manière que jusqu'à là, il y avait un certain nombre de pauvres, on pouvait les voir de manière très positive. Et puis, parce que le projet de société est en train de changer et qu'on est en train d'aller vers de la manufacture, du travail, l'exploitation de l'homme par l'homme et compagnie, et ben du coup, on va changer le monde des idées et dire qu'il y a des bons pauvres et des mauvais pauvres, parce qu'on en a besoin de le dire, en fait. Mais la question que tu poses, elle reste valide, parce que, par exemple, quand il y a 1789 qui arrive et qu'il y a des Robespierre qui viennent et qui commencent à dire « Quel est le projet de société ?» avant, et c'est ça qui va guider chacune de nos prises de décision. Ce qui va du coup les obliger à abolir l'esclavage, parce que si tu commences à dire que tous les hommes sont égaux, il faut aller au bout de la démarche, et s'il y en a un seul qui est inégal, et ben à ce moment-là, tout ton projet, il est foutu en l'air. Et ben ça, pour le coup, c'est l'exemple que tu dis, c'est-à-dire un moment où les idées qu'on pose définissent la société qu'on va construire. Mais en réalité, au moment où nous, on est en train de parler, en 1540 et tout, c'est pas ça l'idée. L'idée, c'est que la société, elle va se transformer. Qu'on le veuille ou non, la bourgeoisie est en train d'émerger, les techniques de fabrication sont en train d'exploser de plus en plus, donc on va avoir de plus en plus de marchandises, et l'État va lui-même définir comme projet que la richesse d'un État, c'est son argent, sa capacité à échanger des marchandises, etc. Donc la voie est toute tracée pour une prise d'importance de la bourgeoisie.
Alors, quand on vient vers notre monde moderne, Tu faisais quand même référence au droit à la paresse,
Oui.
justement. Et donc, voilà, on a vraiment l'impression que tout ce que tu viens de décrire se heurte à la réalité, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on est là-dedans?
Bah, c'est une
On
bonne
est
question.
complètement objet dans cette machine et
C'est une très bonne question
une
parce qu'en
pièce dans la
fait,
machine, on
ces
est une pièce.
conditions soi-disant matérielles d'existence contre lesquelles on ne pourrait rien, elles
Ouais.
nous emmènent sur un chemin qui nous amène quelque part, et ce quelque part, il n'est peut-être pas forcément très souhaitable. Auquel cas, il faudrait peut-être changer de façon de faire. Donc pas forcément laisser la marchandisation et la production prendre cette importance-là. Le droit à la paresse, c'est exactement ça. C'est un regard sur pourquoi est-ce que maintenant le travail est si important? Est-ce que c'est vraiment le cas? Est-ce qu'il est vraiment si important le travail? Et est-ce que vraiment c'est ce travail, la production de marchandises et l'échange qui doit absolument tout guider en permanence dans la société? Et Paul Lafargue, qui a écrit ce bouquin-là, Le droit à la paresse en 1880 quelque chose, il écrit ce bouquin en disant non. On a le droit à la paresse et peut-être même le devoir à la paresse. C'est-à-dire que lui, sa façon de répondre au chômage, par exemple, c'est de dire, eh ben, s'il y a des chômeurs, c'est qu'il y a une certaine quantité de boulot et trop de gens qui veulent le
Oui,
faire.
oui.
Donc, c'est pas qu'il faut travailler plus, c'est qu'il faut travailler
Il faut
moins
travailler
pour
moins
que
pour
tout
que
le monde ait
tout
du
le monde
boulot.
travaille,
Voilà.
ouais.
Et ça, c'est l'approche de Paul Lafargue qui
Ouais.
dit aussi d'ailleurs aux grands capitalistes de l'époque, arrêtez de surproduire, vous vous retrouvez à surproduire et à devoir balancer la moitié, et en plus à trouver des nouveaux débouchés pour vos marchés, vous devez être tellement stressé par ça, arrêtez de surproduire, produisez juste ce qu'on a besoin au bon prix, et c'est tout.
Et on voit, nous, dans notre société actuelle, les supermarchés, tout ce qui balance chaque semaine, enfin,
Ouais,
c'est,
le
voilà,
textile, c'est une
on
catastrophe.
est complètement là-dedans. Alors, tu faisais référence à des choses très anciennes, hein, puisque tu parlais de la société grecque,
Ouais, bah
qui...
justement, ça c'est pour revenir à ce que tu disais.
Ouais.
C'est donc quand tu dis dans quelle direction on va là, on va être qui nous, cette façon de penser, elle va l'amener où la société? C'est quoi le projet là en fait? Et bah c'est là qu'on voit que ça a une telle importance. En 1540, on fabrique des bons pauvres et des mauvais pauvres. On met le travail au centre de tout pour qu'il y ait une certaine classe qui puisse s'en sortir mieux que les autres grâce à sa marchandisation, etc., etc. Donc le travail est au centre de tout. Sauf que dans plein de sociétés humaines, c'est pas le cas du tout. Voire même, le travail, c'est quelque chose qu'on méprise le plus qu'on peut. Et là, on arrive à une vraie contradiction à l'intérieur de ce dont on est en train de parler depuis tout à l'heure. C'est que, en théorie, l'humain, il a envie de travailler le moins possible, de se faire chier le moins possible pour avoir le plus de loisirs, de temps libre et de plaisir possible dans sa vie. C'est sûrement pour ça qu'à un moment donné, il invente la roue. C'est sûrement pour ça qu'à un moment donné, il invente un tournevis.
Oh, c'est pas forcément pour
Mais
ça.
si, parce qu'il gagne un temps fou et qu'enfin, il peut s'occuper un peu de ses gamins, aller se baigner un peu, faire un petit barbecue avec les
Ouais,
voisins.
je trouve que là, c'est un raccourci. Mais
Ah, on peut se poser la
par
question,
contre,
c'est rarement posé comme ça, cette question.
oui, par contre, moi, ce qui m'interpelle, c'est ce que tu m'as lu tout à l'heure
Oui.
sur les déclarations des
Alors,
Grecs.
je termine avec deux citations. Paul Lafargue a tout à fait, en tout cas, de mon point de vue, il a tout à fait raison de rappeler que le rapport au travail, il n'est pas le même suivant les sociétés,
Oui.
et que en filigrane, les Grecs, dont on se revendique tellement souvent, et les Romains, se moqueraient de nous et nous verraient sûrement comme des fous ou des malades aujourd'hui. Deux petites citations. La première, c'est Platon, qui dit: La nature n'a fait ni cordonnier ni forgeron, de pareilles occupations dégradent les gens qui les exercent. Vils mercenaires, misérables sans nom, qui sont exclus par leur état même des droits politiques. Quant aux marchands accoutumés à mentir et à tromper, on ne les souffrira dans la cité que comme un mal nécessaire. Le citoyen qui se sera avili par le commerce de boutique sera poursuivi pour ce délit. S'il en est convaincu, il sera condamné à 1 an de prison. La punition sera doublée à chaque récidive. Voilà. Donc là, on voit que travailler ou faire du commerce, à l'époque des Grecs, c'est déjà vu comme quelque chose de très avilissant. Je rappelle, c'est une société qui a des esclaves. Donc en fait, c'est les esclaves qui travaillent. Sauf que, à
Faut que
l'époque,
t'ailles vite parce
oui,
qu'on est
je
au bout
finis
là.
vite. À l'époque, il y a une autre citation que j'ai pas sous les yeux là, mais qui dit que si seulement on était capable de faire bouger les machines toutes seules, on n'aurait plus besoin d'esclaves et tout le monde serait heureux. Et c'est exactement ce qui se passe au moment de la révolution industrielle. On commence à pouvoir faire bouger les machines toutes seules, à multiplier notre production incroyablement, sauf que au lieu de tous plus être esclaves, en fait, on est tous devenus encore plus esclaves.
Encore un autre procès pour Sarkozy. Travailler plus pour gagner plus. Sarkozy, voilà, paf. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.
Salut tout le monde.